Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation d'être présente avec vous pour ce culte cet après-midi. Ce matin, j'ai présidé le culte à Esbly, l'église où nous sommes membres. Donc, c'est un peu dur quand même de venir. Mais j'avoue que maintenant, à notre âge, à nos âges, parce que ma femme est plus jeune que moi, à nos âges, nous avons l'habitude de faire la petite sieste après le repas de midi, donc pourvu que je ne m'endorme pas pendant le message, ce serait pas très recommandé, mais enfin. Et encore merci beaucoup de votre invitation. If you speak English, we're happy to be here today with you. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'il y a au moins un anglophone parmi nous, peut-être plus. Donc. Il y a quelques années, bon, je ne sais pas si vous avez ouvert vos Bibles donc, au texte qui a été lu, Luc chapitre 12 et verset 13 à 34. Nous allons essayer d'éplucher certaines choses dans ce passage pour notre bien. Alors, donc, il y a quelques années, ça remonte quand même une bonne vingtaine d'années, j'ai vu une pub qui a promis le bonheur total et incroyable par un billet de loterie. Est-ce que vous y croyez? Non, mais vrai, mais... Je vais acheter ma télé Z donc toutes les semaines, et là, il y a des tas de gens qui sont à côté en train d'acheter quelque chose à gratter, à gratter, à gratter. Donc, je trouve qu'il est plus utile de me gratter là où ça me démange que d'acheter des choses à gratter donc au loto, parce que franchement, c'est l'État qui gagne beaucoup. Bon, mais il y avait cette pub, bonheur total et incroyable. Donc, par un billet de loterie. Et autrefois aussi, il y avait le slogan du loto, « Le bonheur, ça n'arrive pas qu'aux autres. » Voilà. Vous pouvez avoir le bonheur pour le prix d'un billet de loto à 5 francs. À l'époque, c'était des francs. Ça fait aujourd'hui 76 centimes d'euros. Bon, pas cher ça. Je ne sais pas combien coûte... un billet de loto aujourd'hui, je suis pas très, enfin, je suis un peu ignorant dans ce domaine. Mais à l'époque de Jésus, presque toutes les choses que nous convoitons si facilement aujourd'hui et qui, selon les pubs, sont obligées pour vivre le vrai bonheur, toutes ces choses n'existaient pas. Disons à part la nourriture. Bon, les gens mangeaient, il est vrai, mais malheureusement, il n'avait ni la cuisine chinoise, ni la cuisine française, donc il n'avait pas de chance. Je ne sais pas ce qu'il mangeait. Bon. Êtes-vous, dans cette ère de technologie, êtes-vous de ceux pour qui votre smartphone est une extension de votre bras? Autrement dit, s'il n'y a pas de smartphone dans votre bras, vous n'êtes pas vraiment... vous, parce que ça, c'est ce qu'on voit. J'ai vu hier une photo prise dans le Grand Musée d'Amsterdam devant un tableau magnifique de Renoir. Il y avait un groupe de jeunes. Alors, devinez ce qu'ils faisaient. Il y avait une banquette là, une double banquette, les filles d'un côté, les garçons de l'autre côté. Ce magnifique tableau de Rembrandt, c'était Rembrandt. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous pouvez imaginer. Chacun était là en train de... Joyce a dit, peut-être qu'ils sont en train d'entendre quelque chose sur le tableau, mais je dis bien à ce moment-là, ils sont en train de regarder le tableau. Ou, j'ai dit, peut-être ils sont là en train, par texto, de communiquer avec la personne à côté, je ne sais pas, mais ça me dépasse. Comment peut-on visiter un beau musée comme ça, ou aller au Louvre et être là avec son smartphone? Et combien d'heures passez-vous sur Facebook chaque semaine? Qui est-ce qui bénéficie quand vous allez sur Facebook, ah, c'est Facebook qui gagne des tas d'argent. Plus vous passez du temps, plus Facebook gagne du temps. D'ailleurs, il y a des problèmes avec Facebook en ce moment. Je ne suis pas un accro du smartphone. D'ailleurs, j'ai mon premier smartphone de toute ma vie. Il fallait que j'attende l'âge de 80 ans pour qu'on me l'offre. Et ma femme m'interdit de faire partie de Facebook. Non, mais elle n'est pas tyrannique, ma femme, hein, mais elle sait très bien que je passe beaucoup de temps devant l'écran de mon ordinateur. Et elle sait très bien que si je suis un animal un peu social, bon, elle sait que si je faisais partie de Facebook, et j'en fais partie pour 2-3 par personne, pas plus, je ne regarde pas les gens qui sollicitent être mon ami, elle ne me verrait plus. Donc, je trouve que pour le bonheur du couple, il vaut mieux que je ne fasse pas partie de Facebook. Mais que ferais-je, moi, sans mon ordi et mon ADSL? Ah, je suis malade quand il y a un truc qui interrompt le contact avec mon ADSL pendant quelques heures même. Je ne sais pas, vous, certainement, vous n'êtes pas comme ça, non? Ça va? Bon, enfin, non. À l'époque de Jésus, la vie d'antan était beaucoup plus simple. Il y avait moins de contraintes matérielles. Et les pubs alléchantes qui nous poussent à la consommation pour notre soi-disant bonheur n'existaient pas. Je vois mal à l'entrée de Jérusalem, une de ces belles portes à Jérusalem, acheter tel ou tel truc, et là vous aurez donc votre robe sera beaucoup plus claire, les couleurs plus vives, ou le blanc plus blanc. Non, bon, c'est impossible, ça n'existait pas à l'époque de Jésus, les pubs et tout cela. La vie était simple. Mais les gens à l'époque de Jésus avaient tout de même tendance à vouloir s'amasser des richesses matérielles, pensant faussement que les biens matériels pouvaient leur apporter le bonheur et la satisfaction. Et c'est le sens de la parabole de l'homme riche qui se trouve affichée donc à l'écran ou au mur. Le fait est que Dieu désire notre bonheur. Dieu ne veut pas qu'on mène une vie forcément austère. Peut-être pour certains, ils pourraient le demander, mais en général, non, je ne trouve pas ça dans la Bible. Dieu a un grand plaisir à voir ses enfants vivre dans la joie et la plénitude. Vous chantez ça aussi, le Saint-Esprit apporte en nous la vraie plénitude. Mais il sait que le bonheur éphémère des biens matériels ne peut jamais satisfaire. Votre smartphone n'est pas une fin en soi. Mon ordinateur avec l'ADSL n'est pas une fin en soi. Et je me culpabilise parfois quand il y a un problème. Et malheureusement, je ne dis pas fâché, mais je suis frustré, c'est le mot. Frustré parce que ça ne marche pas. Juste un mot sur cette minuterie qui est là. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà parlé 14 minutes et 55 secondes? Non, ça c'est l'heure. Bon, d'accord, bon, je suis d'accord. Non, mais j'avais peur que ce soit une minuterie, qu'on était en train de minuter ma prédication. Bon, mais voilà. Et c'est pour cela, le fait que Dieu sait que le bonheur des biens matériels est éphémère, que dans le passage devant nous aujourd'hui, Jésus nous laisse un enseignement en quatre parties qui est le fondement d'une attitude saine envers les choses matérielles et un guide vers le véritable bonheur, le bonheur qui ne périra jamais. Au verset 13 à 21, Jésus enseigne une échelle de valeur qui est juste. Dans les versets 13 à 21, Jésus fait deux constatations à propos d'une échelle de valeur qui est juste. La première constatation est au verset 15. la vie d'un homme, c'est pas ça la traduction que vous avez devant vous, ne dépend pas de ou ne se résume pas à ce qu'il possède, même s'il est dans l'abondance. Notre vie n'est pas la somme de notre compte en banque, la valeur de nos biens immobiliers et des tas de choses comme ça. Ça, ce n'est pas notre vie. Notre vie est beaucoup plus que cela. Mais parlez avec vos amis et leur valeur est ce qu'ils ont en banque dans leur compte ou dans leur portefeuille à la bourse. C'est une remarque provoquée par la cupidité, c'est-à-dire la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, est provoquée par la cupidité étant le désir immodéré de posséder. On peut vouloir posséder quelque chose, ce n'est pas interdit, mais il y a le désir immodéré de posséder. Le contexte est une dispute sur un héritage. Jésus aurait eu l'autorité pour répondre, car la demande de l'homme semblait juste, mais Jésus préfère aller au fond des choses et aborder la question de la motivation. Dieu regarde beaucoup plus nos motivations que nos paroles et nos actes. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi disons-nous ce que nous disons? Dieu regarde ce qui nous motive. Et ici, il dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Alors, votre désir d'avoir la part d'héritage, c'est une cupidité de votre part. Jésus connaissait, parce qu'il connaît le cœur de cet homme, et il a dit, gardez-vous de cette cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Il y a une deuxième constatation dans ce passage au verset 21. Celui qui accumule des trésors pour lui-même sans s'accumuler un trésor au ciel est insensé. Le mot insensé dans l'Ancien Testament veut souvent dire rejeter la connaissance de Dieu et les principes de Dieu. Et en disant cela, ce qu'il a dit au verset 15, donc là, gardez-vous de toute cupidité. Jésus nous oblige à nous examiner, à nous concentrer sur les valeurs bibliques et spirituelles qui sont à la base du vrai bonheur et des valeurs qui sont éternelles. Bon, je ne veux pas être trop personnel en parlant de Joyce et moi, mais je crois honnêtement que nous avons, Joyce et moi, sincèrement essayer d'adopter une échelle de valeurs qui glorifie Dieu. Mais pour en être sûr, j'essaie dans la transparence devant Dieu de me poser quelques questions. Par exemple, si je veux acheter quelque chose, pourquoi est-ce que je veux faire telle ou telle dépense? Qu'elle soit grande ou petite, nous avons l'habitude de demander au Seigneur vraiment comment il veut que nous dépensions notre argent. Alors, qu'est-ce que le Seigneur désire? Qu'est-ce qu'il en pense? Pourquoi est-ce que moi je veux faire cette dépense? Pourquoi acheter tel article? Bon, je peux vous donner trois bonnes raisons pour lesquelles on m'a donné ce smartphone pour mes 80 ans. Bon, je ne vais pas vous les dire maintenant, mais il y avait deux bonnes raisons, et croyez-moi, j'ai résisté pendant des années. Mais déjà, j'ai 5 petits-enfants qui communiquent beaucoup par smartphone. Bon, c'est beaucoup plus facile avec un smartphone de recevoir des textos et tout ça. Bon, et puis les photos, c'est une autre raison. Mais enfin, il y avait plusieurs bonnes raisons pour l'avoir, mais j'ai mis ça devant le Seigneur. Et le Seigneur, finalement, a donné le feu vert. Je ne l'avais pas importuné, mais il a donné le feu vert. Mais pourquoi acheter tel article? Que ce soit un gadget, une voiture, une maison. On achète une grande maison avec beaucoup plus de pièces qu'on en a besoin, finalement. Pourquoi? Ben, je crains que pour certaines personnes, pas ici forcément, des connaissances peut-être, non, on veut épater les autres. Alors, c'est un signe de succès. Regardez ma voiture. Regardez ma maison. Ah, j'ai réussi dans la vie. Alors, je suis quelqu'un. Vous êtes quelqu'un parce que vous êtes telle marque ou tel modèle de voiture ou tel type de maison. Ça vous fait quelqu'un? Alors là, vous vous trompez. Et beaucoup de gens se trompent. Et vous avez des amis qui se trompent dans ce domaine. Et il faut faire très attention de la raison pour laquelle nous faisons tel ou tel achat. Ensemble, quelles sont les véritables motivations de mes dépenses? Il faut vraiment faire attention au piège de la société de consommation, parce qu'elle joue sur la cupidité, le désir immodéré de posséder. Alors, résistez. Vous pouvez vivre sans telle ou telle chose qui va faire de vous la plus belle personne sur la face de la terre. Vous savez qu'un simple shampoing peut faire de vous une star, une véritable star, mais vraiment. Et ainsi de suite. Non, mais analysez, décortiquez un peu les pubs. Vous savez, une des choses... On le dit beaucoup moins souvent maintenant, mais autrefois on disait souvent, vous voyez, vu à la télé, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Rien. C'est bête, mais analysez. Faites un exercice de cela. C'est intéressant. Analysez, décortiquez les raisons qui sont données pour acheter tel ou tel produit, pour dépenser son argent. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? J'ai l'impression d'être un petit peu pris là. Bon, il est important d'être convaincu que nous sommes les gérants des biens que Dieu nous a donnés. Ce que nous avons, si nous sommes chrétiens, nous croyons que Dieu nous les a donnés. Il nous a donné nos biens, ce que nous avons, nos comptes en banque, nos salaires, etc. Ça vient de lui. Et nous sommes les gérants de ce que nous avons en réalité. Tout est à lui et nous n'avons pas le droit de gaspiller ce que Dieu nous donne, ni de dépenser les biens de Dieu n'importe comment. Il a son mot à dire. Est-ce que vous avez l'habitude de donner la dîme? Merci beaucoup. De donner la dîme, mais c'est formidable. Mais cela ne veut pas dire que vous avez le droit de faire n'importe quoi avec les 90 autres pourcents de ce que vous avez, parce que c'est à Dieu, et vous êtes le gestionnaire. Alors, vous n'avez jamais pensé à ça. Bon, d'accord. Il faut parfois jongler entre le nécessaire et le superflu, sachant parfois que nous avons besoin d'acheter quelque chose juste pour le plaisir. Alors, je vais vous dire un secret, surtout pour ceux qui sont mariés. Ma femme n'a pas besoin de vivre, elle n'a pas besoin, pour vivre, d'avoir des fleurs à la maison. Mais si, par hasard, bon, occasionnellement, une fois par an, je ne sais pas, je ramène des fleurs à la maison. Là, j'ai dépensé de l'argent. Je ne sais pas combien, mais ce n'est pas des sommes faramineuses. Hein? Ça dépasse rarement 10 euros. Hein? Donc, si je fais ça, vous savez, le regard sur son visage, alors, je pense que ça compte pour beaucoup. Elle adore les fleurs. Et lui donner des fleurs, ça lui fait plaisir. Donc, il y a parfois des moments où on dit oui, c'est peut-être un peu superflu, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres raisons. On peut vivre sans ces fleurs, mais ça ajoute quand même quelque chose. Et dans un couple, vous savez, j'ai pas besoin de vous dire ce que ça ajoute. Bon, enfin. Mais si vous n'avez jamais fait, offrez des fleurs à votre femme et vous verrez l'effet, hein? À moins qu'elle soit allergique à la fleur que vous voulez acheter, là. Alors, prenons exemple là sur Jésus. On ne peut pas imaginer une vie plus simple que celle menée par Jésus. Mais, on a l'impression qu'il aimait la bonne table, qu'il aimait faire la fête avec des gens. D'ailleurs, ses détracteurs lui ont reproché cela. Il a même permis à une femme de d'oindre ses pieds d'un parfum exquis et cher. Et l'un de ses disciples, avec une mauvaise motivation, a dit, mais ça, on aurait pu vendre ça et donner ça aux pauvres. Non, il voulait mettre ça dans sa poche, mais c'est autre chose. Mais on lui a reproché certaines choses. Mais la différence est que Jésus n'est pas tombé dans le piège de se laisser attacher aux choses matérielles. Et c'est ça toute la différence. Est-ce que nous sommes attachés à nos biens matériels? Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui apporte le vrai bonheur dans la vie? Qu'est-ce qui apporte la plénitude, la joie? Qu'est-ce qui nous réjouit dans la vie? Je pense que pour Joyce et moi, l'une des choses qui est en tête de la liste, c'est nos relations. Oui, nos relations. Avec Dieu d'abord, et nous avons l'habitude de rencontrer Dieu ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà, la femme au secours, la pastille. Il y avait un prédicateur qui avait l'habitude de mettre une pastille dans la bouche et il savait que quand la pastille était complètement fondue, il était temps d'arrêter la prédication. Un jour, il a prêché, c'était interminable, interminable. Bon, à la fin de la prédication, un des anciens lui a dit, « Mais pasteur, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Je me suis trompé, j'ai mis un bouton. » Nos relations sont importantes pour Joyce et moi. Nous avons une relation avec certains d'entre vous. Malheureusement, on ne les entretient pas beaucoup. Mais j'ai dans mon Outlook, je pense que j'ai plus de 1200 adresses dans mon Outlook. Bon, certaines sont un peu superficielles, mais il y en a beaucoup qui sont de vrais amis et j'arrive pas à garder le contact. Et ça me désole, franchement. Les relations nous bénissent, nous enrichissent. Et c'est très important pour nous, beaucoup plus que des biens. Nos centres d'intérêt légitimes sont importants aussi. Quels sont vos centres d'intérêt? Combien aiment la musique? Non, pas beaucoup plus que ça. Non, combien aiment la musique? Ben oui, ben, c'est probablement pas le même genre de musique que j'aime, mais c'est pas grave parce que j'ai eu une formation assez classique dans la musique et j'aime beaucoup écouter la musique classique, même aller à un concert de temps en temps. Combien aime l'art? Ben Joyce, elle est un peu artiste. Les couleurs sont très importantes pour Joyce. Et elle a épousé un daltonien. Mais elle m'a appris quand même à différencier entre certaines couleurs qui sont un peu difficiles parfois. Autre chose pour moi, c'est le cinéma, mais certains films, on est quand même assez soigneux du type de film que nous allons regarder. La littérature ou la lecture, j'aime beaucoup. Visiter différents monuments, aller dans d'autres pays si on a la possibilité et apprendre comment vivent d'autres gens, etc. Tout cela, ce sont des centres d'intérêt qui sont légitimes et qui nous bénissent. Ce sont des moyens d'épanouissement pour moi. Ce sont des centres d'intérêt que Dieu m'a donné et qui me sont propres. Peut-être vous en partagez certains même. Mais tout cela dans le contexte d'une relation avec lui. Et si j'estime qu'un centre d'intérêt est en train de rivaliser avec ma relation avec Dieu, donc il faut que je fasse attention à ce centre d'intérêt. Il ne faut pas que ça prédomine dans ma vie aux dépens d'une relation avec Dieu. Et puis, quelque chose qui est vraiment important, quand nous considérons notre vie, nos biens, etc., c'est la satisfaction de ce que l'on possède. Est-ce que vous êtes une personne satisfaite? Nous avons l'impression, nous avions l'impression en venant en France, et maintenant nous sommes Français, donc je peux me permettre de le dire, que les Français n'étaient jamais contents. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je dis? Non, j'ai dit je ne serai jamais 100% français parce que je refuse de râler. Bon, j'ai dit ça avec un brin d'humour, bien sûr. Mais Dieu m'a tant donné, pourquoi est-ce que je vais râler? Il m'a tout donné. Et Paul a dit à Timothée des paroles qui sont tellement importantes, chapitre 6 de 1 Timothée, les versets 6 à 8. Certes, c'est une grande source de gain, que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Alors, ça, c'était une constatation de ma mère qui m'a donné naissance. Nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Donc, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Le contentement. C'est d'une grande, grande valeur et Dieu m'a comblé d'une épouse qui est contente. Et je vous assure que c'est une bénédiction. Et elle m'a appris aussi à être plus content. Bon, je vais aller plus rapidement. Jésus nous demande donc d'avoir une échelle de valeur qui est juste, le deuxième élément, plus bref, et d'avoir une attitude saine envers les choses matérielles. Avoir une attitude saine envers les choses matérielles et une sécurité qui est réelle d'après les versets 22 à 28. Je vais rapidement. L'enseignement de Jésus ici est qu'on ne doit pas se faire des soucis pour nos biens matériels. La vie est plus que les biens que nous possédons, comme je viens de dire. Jésus nous donne bien, comme l'exemple bien connu, des corbeaux et des lys. Si Dieu s'occupe des corbeaux et des lys, il le fera davantage pour nous, parce que nous, il dit au verset 24 que nous valons beaucoup plus que les oiseaux. Et même les lys qui sont très beaux dans les champs, nous valons plus qu'eux. Attention, ce passage dit que Dieu nourrit les corbeaux. Alors, comment est-ce que ça vous fera? Vous dites, Dieu me nourrit. Je n'ai rien à faire. Attention. Vous savez, les corbeaux et tous les oiseaux vont aller chercher leur nourriture. Et Dieu attend la même chose pour nous. Il ne veut pas que nous restions là en disant, Dieu me donne tout, tout tombe du ciel, donc voilà, j'ai rien à faire. Il ne veut pas que ce soit une incitation à la paresse. Donc faisons comme les corbeaux et allons chercher notre nourriture en travaillant comme il faut. L'accent dans ce passage est sur les soucis et la crainte. Et Jésus veut inspirer la confiance en lui, en Dieu. Il veut nous encourager à approfondir notre foi. L'inquiétude, dit Jésus, n'a jamais pu faire avancer dans la vie. Au verset 25, il dit une chose bizarre, ajouter une coudée à la durée de sa vie. Bon, d'autres traductions disent une coudée à sa taille. La cupidité et le manque de foi peuvent développer des chrétiens faibles et charnels qui vivent dans la crainte. Et le manque de foi, la cupidité et le manque de foi ne sont pas dans la volonté de Dieu. La dépendance du matériel, Dieu veut nous libérer de tout cela. Est-ce que vous faites confiance plutôt à votre compte en banque? Ou à Dieu. Donc, Dieu veut nous apprendre une échelle de valeur qui est juste, une sécurité qui est réelle, et troisièmement, il veut nous apprendre des priorités matérielles. Au verset 31, l'enseignement de Jésus est simple, le règne de Dieu d'abord. Dieu d'abord dans la vie. C'est encore un avertissement contre le souci des choses matérielles. Et j'ai le mot ici, vous avez, ne vous inquiétez pas, je trouve pas, oui, il y a une traduction, ne vous tourmentez pas. Et le mot tourmenter veut dire qu'on n'est pas très stable, on est sur une planche qui bouge trop, je ne sais pas. Non, il a dit, ayez les pieds sur le roc solide. Quel exemple pour le chrétien? Jésus est le roc. Et Dieu veut que nous ayons nos pieds sur la solidité de Jésus qui est le roc. Soyez fixés sur vos objectifs, soyez fermes dans votre foi, il le dit au verset 29. Et pourquoi? Parce que se tourmenter pour notre nourriture et notre boisson est une attitude, une réaction qui sont plutôt païennes et pas chrétiennes. Vous savez, les gens ils sont autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont toujours en train de se faire beaucoup de soucis. Alors, je ne dis pas qu'on ne devrait pas se soucier pour notre vie matérielle, mais pas dans le même sens que le monde autour de nous. Ayons suffisamment et soyons contents de cela. Dieu veut régner dans notre vie, verset 31, et ceci avant toute chose. Si Dieu règne dans votre vie, tous les autres aspects de votre vie seront à leur juste place. Et il n'est pas possible que Dieu règne dans votre vie et les autres choses soient déplacées. C'est lui qui s'occupe du reste. Avez-vous déjà fait cette expérience? De vraiment compter sur Dieu et non sur vos propres ressources et de voir agir. Nous l'avons vu plusieurs fois dans les églises où nous étions. Dieu donne suffisamment. Je me souviens une fois, j'avais dans ma poche une lettre pour relever une option sur une propriété que notre église voulait acheter. Mais nous n'avions pas encore l'accord de la mairie. Bon, et, si à 5 heures de cet après-midi-là, on n'avait pas l'autorisation d'acheter la propriété, la vente tombait à l'eau. Et nous savions que les propriétaires allaient faire marche arrière. À 3 heures de l'après-midi, j'avais rendez-vous avec le maire adjoint à l'urbanisme. J'ai exposé notre cas. Il a dit, je vais appeler le bureau concerné. Il a appelé, il a dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas donner au pasteur Dixon cette autorité? Il dit, oui, je vous le promets, il l'aura. Il a raccroché, il a dit, monsieur Dixon, allez lever votre option, vous aurez l'autorisation. À 16 heures, je suis allé déposer ça chez le notaire avec une heure de battement. Parfois, Dieu nous amène jusque-là, mais vous pensez que nous n'avons pas appris quelque chose par cette expérience? Dieu pourvoit. Quand c'est sa volonté, il pourvoit. J'ai fait graver dans l'alliance de Joyce à l'intérieur, psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désir. Vous allez me demander, mais est-ce que Dieu, c'est ce que votre cœur a désiré? Et je vous dirai non. Vous allez être surpris. Non, Joyce, ce n'était pas ce que je désirais en tant que femme. Mais j'ai appris après quelques années que Dieu savait ce qu'il me fallait. Et sans le savoir, c'est plus que j'ai désiré. Plus que j'ai désiré. Parce que Dieu est comme ça. Il nous connaît. Et il fait ce qui est le mieux pour nous. Enfin, ça c'est mon Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le Dieu que je trouve dans la Bible. Finalement, le quatrième élément d'une attitude saine envers les choses matérielles est de posséder un trésor qui est incorruptible. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleur qui approche, ni de mythe qui le détruise. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce sont des paroles difficiles. Que faut-il en penser? Je voulais juste, en terminant, faire 5 remarques pour clarifier l'enseignement de ces versets. D'abord, nous ne devons pas nous attacher à nos biens matériels. S'ils sont pour nous une pierre d'achoppement, mieux vaut s'en débarrasser. Nous avons le droit de les avoir, mais si c'est une pierre d'achoppement, alors il vaut mieux s'en débarrasser pour ne pas avoir cette pierre d'achoppement entre nous et le Seigneur. Deuxième chose, constatation, ou pensée, nous devrions être prêts à partager nos biens avec ceux qui sont dans le besoin, mais pas forcément à nous dépouiller en le faisant. Si nous nous dépouillons de tout, ça veut dire que nous allons être dépendants d'autres, de l'État ou de notre famille ou de je ne sais qui, de l'Église. Non, Dieu ne nous demande pas de devenir dépendants en donnant tout. Alors ici, c'est très personnel et c'est très individuel. Dieu vous parlera selon ce que vous devez faire. Mais donner à quelqu'un d'autre est un signe que vous n'êtes pas attaché à vos besoins, à vos biens. Troisième pensée, nos biens terrestres sont périssables. Donc, il ne faut pas compter dessus. Mettez plutôt votre confiance en Dieu et dans ses biens parce qu'ils ne périssent pas. Quatrième pensée, les biens véritables et durables sont ceux qui nous amassons au ciel, où ils ne sont pas périssables, et où nous les aurons pour l'éternité. Ce que nous aurons au ciel va durer éternellement. Les choses que nous aurons faites pour le Seigneur pendant cette vie sur terre sont un trésor amassé au ciel pour nous. Nous sommes en train de mettre un trésor à la banque du ciel par notre vie pour le Seigneur. Et ça, on ne pourra jamais nous dépouiller, et ça va durer à jamais. Quand on regarde l'attitude de certains, j'ai l'impression, en dehors de l'Église, bien sûr, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment compris que nous ne pourrons pas apporter avec nous tout ce que nous avons accumulé sur terre. C'est vrai. On a demandé une fois à un homme riche, un Rockefeller, Rothschild, je ne sais pas qui, combien d'argent faut-il pour être heureux? Savez-vous ce qu'il a dit? Un peu plus. Un peu plus. Et jamais heureux. Il faut toujours s'amasser. Et pour quelle raison? Quand on part dans l'éternité, on ne l'emmène pas avec nous. Combien ont jamais vu un camion de déménagement suivre le corbillard jusqu'à la cimetière? Ça n'existe pas. On ne prend pas avec nous. Cinquième pensée, notre cœur va s'attacher à ce que nous chérissons le plus. Est-ce que nous sommes attachés à Dieu ou à nos biens matériels? Je vous renvoie à l'avare de Molière. Vous connaissez l'avare? Vous avez étudié l'avare, la pièce de Molière? Bon. Alors, vous savez que l'avare, celui qui devait tout garder pour lui-même, il s'appelait Harpagon. Et qu'est-ce qu'il a fait de sa richesse? Qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous? Alors, il a mis dans une espèce de une cassette, une espèce de petit tronc, si vous voulez, et il l'a enterré au fond de son jardin. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Savez-vous où était le cœur d'Harpagon? Enterré dans son jardin. Je ne veux pas que le chrétien enterre son trésor. Il veut que nous répandions le trésor qu'il nous a donné. Je vous encourage à vous poser ces 3 questions. Où se trouve ma confiance? Est-ce dans mes biens matériels ou est-ce vraiment dans le Seigneur? Deuxième chose, qui ou quoi a la priorité dans ma vie? Si c'est une autre personne ou si ce sont mes biens matériels, alors j'ai déplacé Dieu et il n'est plus au centre de ma vie. J'ai mis un autre Dieu, personne ou chose, à sa place et cet autre Dieu est une idole. Et Dieu ne supporte pas des idoles chez le chrétien. Je parle dans le sens figuré, bien sûr, on n'est pas une idole, c'est vous. Enfin, troisième question, est-ce que j'ose mettre Dieu à la première place et lui faire confiance pour tout? Tout. Que Dieu vous donne une attitude saine envers les choses matérielles. Car une attitude saine envers notre vie matérielle sera un guide vers le véritable bonheur, la vraie plénitude. Et Dieu désire la plénitude pour vous. Et le véritable bonheur et la vraie plénitude ne périront jamais. Amen.